Yep, already.
Où est votre famille? Enfin, vous pouvez avoir confiance. Répondez-moi.
Je préférais ne pas le faire pour le moment, monsieur. Du reste, à partir de maintenant, je préférais ne plus faire d'écriture.
Lecture de Bartleby de Herman Melville. En réponse à mon offre d'emploi, je vis un matin un jeune homme, immobile, sur le seuil de mon étude. La porte était ouverte, car nous étions en été. Je revois encore cette silhouette, lividement nette, pitoyablement respectable, incurablement solitaire. C'était Bartleby. Après m'être enquis en quelques mots de ses qualifications, je l'engageais, heureux d'avoir dans mon corps de copiste un homme d'un maintien si posé qu'il ne manquerait pas, pensais-je, d'exercer une heureuse influence sur les tourderies de Dindonneau et la fougue de Pincette. J'aurais dû préciser plus haut que des portes vitrées à double battant séparaient mes locaux en deux parties, l'une dévolue à mes commis et l'autre à moi-même. Selon mon humeur, j'ouvrais toutes grandes ces portes ou les gardais fermées. Je résolus d'assigner à Bartleby un coin proche des portes, mais de mon côté, afin de garder cet homme tranquille, à portée de voix pour l'exécution de mes menues tâches. Je plaçai donc son bureau tout contre une lucarne qui, à l'origine, offrait une vue latérale sur de sinistres arrière-cours et des murs de briques, mais qui, à la suite de constructions nouvelles, était devenue aveugle et ne laissait plus passer qu'une faible lumière. À trois pieds des vitres se dressait un mur, et le jour tombait de très haut, entre deux bâtiments élevés, comme d'une minuscule ouverture aménagée dans un dôme. Pour rendre plus satisfaisant encore cet arrangement, je me procurai un haut paravent vert qui, tout en isolant Bartleby de ma vue, ne le soustrayait pas à ma voix. C'est ainsi que notre union et notre séparation furent astucieusement ménagées. Au début, Bartleby fit un nombre extraordinaire d'écritures. Tel un homme longtemps affamé de copies, il semblait se repaître de mes documents. Il ne prenait pas le temps de digérer, travaillait jour et nuit, copiant à la lumière du soleil et à celle des bougies. J'aurais été tout bonnement ravie de son application s'il avait montré quelque gaieté dans son labeur, mais il écrivait d'une manière silencieuse, éteinte, mécanique. Il entre tout naturellement dans les attributions d'un copiste de vérifier, mot à mot, l'exactitude de sa minute. Lorsqu'une étude emploie deux ou plusieurs commis aux écritures, ceux-ci s'assistent mutuellement dans cet examen, l'un lisant la copie, l'autre la grosse. C'est une besogne très monotone, fastidieuse et léthargique. J'imagine aisément que, pour des tempéraments sanguins, elle soit parfaitement intolérable. Il m'est difficile, par exemple, d'imaginer que l'ardent poète Byron se fût assis d'un cœur content aux côtés de Bartleby pour collationner un acte de 500 pages couvert de pattes de mouche. De temps à autre, dans l'ardeur du travail, j'avais pris l'habitude d'aider moi-même à la révision de quelques brefs documents, en appelant Dindonneau ou Pincette à la rescousse. En plaçant Bartleby près de moi, derrière le paravent, j'avais dans l'esprit de recourir à ses services en de menues occasions de cette sorte. Ce fut le troisième jour, je crois, après son arrivée dans mon étude, alors que ses écritures n'avaient encore fait l'objet d'aucune collation, que dans ma hâte d'expédier une petite affaire en cours, j'appelais soudainement Bartleby. pressé et naturellement assuré d'une immédiate obéissance, je restais assis, la tête penchée sur l'original, tenant à bout de bras la copie afin que Bartleby, en émergeant de sa retraite, pût s'en saisir et se mettre au travail sans délai. Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. J'étais donc assis dans cette posture lorsque je l'appelais et lui exposais rapidement ce que j'attendais de lui, nommément de collationner avec moi un bref papier. Imaginez ma surprise, que dis-je, ma consternation, lorsque, sans bouger de sa retraite, Bartleby répliqua d'une voix singulièrement douce et ferme « J'aimerais mieux pas ». Pendant quelques instants, je gardais un silence absolu, essayant de rassembler mes esprits en déroute. L'idée me vint immédiatement que mes oreilles m'avaient abusé ou que Bartleby s'était complètement mépris sur le sens de ma requête. Je la réitérai donc d'un ton de voix aussi clair que possible, mais tout aussi clairement me parvint la même réponse. « J'aimerais mieux pas. »« Vous n'aimeriez mieux pas ?» répétais-je en écho, et en proie à une vive agitation, je me levais et traversais la pièce d'une seule enjambée. « Que voulez-vous dire ? Auriez-vous l'esprit dérangé ? Je veux que vous m'aidiez à collationner ce feuillet, tenez !» Et je lui tendis. « J'aimerais mieux pas, » dit-il. Je le regardais fixement. Son visage maigre était tranquille, ses yeux gris, calme et éteint. Aucune ombre d'agitation ne troublait sa surface. Si j'avais décelé dans ses manières la moindre trace de malaise, colère, impatience ou impertinence, en d'autres mots, si quelque émotion banalement humaine s'était manifestée, je l'aurais sans doute chassé de mes bureaux sans ménagement. Mais, en l'occurrence, autant jeter à la porte mon buste de Cicéron en plâtre de Paris. Je restais à le contempler, perdu dans ses écritures, pendant un moment, puis, derechef, j'allais m'asseoir à mon bureau. Voilà qui est pour le moins curieux, pensais-je. Quel parti prendre ? Les affaires pressaient. Je décidai de clore momentanément l'incident, quitte à y revenir tout à loisir. Je fis donc venir Pincette de l'autre pièce, et le papier fut relu sans lanterner. Quelques jours plus tard, Bartleby acheva 4 longs documents, les quadruplicata de témoignages déposés par-devers moi à ma haute cour de la chancellerie. Il devint nécessaire de les collationner. C'était un procès important et la plus grande précision était de rigueur. Après avoir préparé toutes les pièces, j'appelai Dindonneau, Pincette et Gingembre dans mon bureau afin de déposer les copies entre leurs mains. Cependant, que je lirais l'original. En conséquence, Dindonneau, Pincette et Gingembre étaient assis en rang, chacun tenant à la main son document, quand je priais Bartleby de se joindre à ce groupe intéressant. « Bartleby ! Vite, j'attends !» J'entendis le grincement lent des pieds de sa chaise sur le sol privé de tapis, et bientôt il apparut au seuil de son ermitage. « Plaît-il ? » demanda-t-il bénignement. « Les copies !» dis-je en hâte. « Nous allons les collationner, là !» Et je lui tendis le 4e exemplaire. « J'aimerais mieux pas, » dit-il, et il disparut doucement derrière le paravent. Pendant quelques instants, je restais figé en statue de sel, à la tête de ma colonne de clair assis. Puis, me recomposant, je m'avançais vers le paravent et demandais raison d'une conduite aussi excentrique. « Pourquoi refusez-vous ? » « J'aimerais mieux ne pas le faire. » Avec tout autre que lui, je serais aussitôt entrée dans une rage folle et faisant fi des mots, l'aurais ignominieusement banni de ma présence. Mais il y avait en Bartleby quelque chose qui me désarmait étrangement, bien plus, qui miraculeusement me touchait et me déconcertait. J'entrepris de le raisonner. « Ce sont vos copies que nous allons collationner. Nous vous épargnerons ainsi du travail, puisqu'une seule lecture répondra de vos 4 minutes. C'est l'usage. Chaque copiste est tenu de collationner sa copie, n'est-il pas vrai? Avez-vous quelque chose à dire? Répondez!
J'aimerais mieux pas, répliqua-t-il d'une voix flûtée.
Tandis que je lui parlais, il m'avait donné l'impression de peser soigneusement chacune de mes déclarations dans sa tête, d'en comprendre parfaitement le sens, de ne pouvoir en contredire l'irrésistible conclusion, mais d'être contraint par quelque souveraine considération à répondre comme il le faisait.
Vous êtes donc décidé à ne pas satisfaire ma requête, une requête conforme à l'usage et au bon sens.
Il me donna brièvement à entendre que sur ce point, mon jugement était juste. Oui, sa décision était irrévocable.
Il n'est pas rare qu'un homme violemment brusqué, déraisonnablement contrarié, voie ses convictions les mieux établies se mettre à vaciller. Il en vient alors, et c'était mon cas, à conjecturer que la justice et la raison, aussi surprenant que cela puisse paraître, sont toutes deux dans l'autre camp. Par voie de conséquence, s'il se trouve à proximité quelques personnes désintéressées, il se tourne vers elles pour étayer ses esprits défaillants.
« Dindonneau, dis-je, que pensez-vous de tout cela? N'ai-je pas raison ?»«
Avec votre permission, monsieur, dit Dindonneau de sa voix la plus suave, je pense que vous dites vrai. »«
Pincette, dis-je, qu'en pensez-vous?
Je pense que je le jetterai à la porte du bureau. »
« Gingembre, dis-je, désireux de ne pas négliger le plus petit suffrage en ma faveur, que pensez-vous de tout ceci ?»«
Je pense, monsieur, qu'il est un peu cinglé, » répliqua Gingembre avec un large sourire.
« Vous entendez ce qu'ils disent ? » m'écriai-je en direction du paravent. « Sortez de là et faites votre devoir !»
Mais il ne daigna pas répondre. Je réfléchis un moment, en proie à une cruelle perplexité. Mais une fois encore, le travail me harcelait. Je résolus donc de remettre à plus tard l'examen de ce dilemme. Avec quelque embarras, nous nous mîmes en devoir de collationner sans Barthelby.
Toutes les 2 ou 3 pages, Dindonneau émettait respectueusement l'opinion que cette manière d'agir était tout à fait inusitée, et Pincette, se tortillant sur sa chaise avec une nervosité de dyspeptique, marmottait entre ses dents de cinglantes malédictions à l'adresse de la tête de mule cachée derrière le paravent. Quant à lui, Pincette, c'était la première fois et la dernière qu'il faisait le travail d'un autre sans recevoir de salaire. Cependant, Barthelby trônait dans son ermitage, oublieux de tout, hormis de sa propre tâche. Quelques jours s'écoulèrent, au cours desquels le scribe fut totalement absorbé par un travail de longue haleine. Son récent et insolite comportement m'incita à surveiller de plus près ses façons. Je remarquai qu'il n'allait jamais déjeuner, qu'en fait, il n'allait jamais nulle part. Hors de mon bureau, il n'avait, à ma connaissance, aucune existence personnelle. Il montait sempiternellement la garde dans son coin. Je notai cependant qu'à 11 heures du matin environ, Gingembre se dirigeait vers l'ouverture du paravent de Barthelby, comme mû par un geste silencieux, invisible de mon siège. Le gamin quittait alors l'étude en faisant tinter quelques pièces et réapparaissait avec une poignée de gâteaux au gingembre qu'il délivrait à l'intérieur de l'ermitage, non sans recevoir 2 biscuits pour sa peine.
« Il vit donc de gâteaux au gingembre, » pensais-je. « Il ne prend jamais à proprement parler de déjeuner. Il doit être végétarien alors. Mais non, il ne mange même pas de légumes. » Il ne mange que des gâteaux au gingembre. » Mon esprit se perdit alors en rêverie sur les effets probables qu'un régime au gingembre pouvait avoir sur la constitution humaine. Les gâteaux au gingembre sont ainsi appelés parce qu'ils contiennent, entre autres, l'ingrédient qui leur donne cette saveur si spéciale. Or, qu'est-ce que le gingembre ? Une substance épicée, échauffante ?
Bartleby était-il échauffé et épicé? Point du tout. Le gingembre n'avait donc aucun effet sur Bartleby. Sans doute aimait-il mieux qu'il n'en eût point.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore heureux.
Rien n'exaspère autant une personne sérieuse que la résistance passive. Quand l'individu soumis à cette résistance n'est pas dépourvu d'humanité, et quand le résistant est parfaitement inoffensif dans sa passivité, alors, dans ses meilleurs moments, le premier fera de charitables efforts pour comprendre à l'aide de l'imagination ce qui lui est impossible de résoudre par la raison. C'est de cette façon que la plupart du temps, je considérais Bartleby et ses extravagances. « Pauvre diable !» me disais-je. « Il ne pense pas à mal. Il est clair qu'il n'a pas l'intention d'être insolent. Son apparence prouve amplement que ses excentricités sont involontaires. Il m'est utile. Je puis m'entendre avec lui. Si je le renvoie, il a de fortes chances de tomber sur un patron moins indulgent que moi. Il sera mené à la dure et peut-être en viendra-t-il à périr d'inanition. » Oui, voici l'occasion de satisfaire à peu de frais ma conscience. Traiter amicalement Bartleby. Lui passer son étrange entêtement ne me coûtera que peu ou prou, et je ferai trésor en mon âme de ce qui deviendra bientôt un morceau de choix pour ma conscience. Cependant, je n'étais pas toujours de cette humeur débonnaire. Parfois, la passivité de Bartleby m'irritait. Je me sentais singulièrement éperonnée à provoquer son opposition, à faire jaillir en lui quelque étincelle de colère qui réponde à la mienne. Mais autant chercher à allumer un feu en me frottant les jointures avec du savon de Marseille. Un après-midi, toutefois, l'impulsion maligne eut raison de moi et provoqua la petite scène suivante. « Bartleby, dis-je, quand vous aurez fini de copier ces pièces, je les collationnerai avec vous. »« J'aimerais mieux pas. »« Comment ? Vous n'avez pas l'intention de persister dans cet entêtement de mule ?» Pas de réponse. J'ouvris à deux battants la porte de séparation et m'exclamai à l'adresse de Dindonneau et Pincette. « Pour la seconde fois, Bartleby dit qu'il ne veut pas revoir ses minutes. Qu'en pensez-vous, Dindonneau ?» C'était l'après-midi, il faut le noter. Dindonneau flamboyait comme un chaudron de cuivre. Son crâne chauve fumait. Ses mains dansaient le branle dans des papiers maculés d'encre. « Ce que j'en pense !» rugit Dindonneau. « Je pense que je vais passer derrière le paravent et lui faire un œil au beurre noir !» Ce disant, Dindonneau bondit sur ses pieds et se mit en position de pugiliste. Il s'apprêtait déjà à passer à l'attaque quand je le retins, alarmé par l'effet que j'avais produit en éveillant inconsidérément sa combativité après le déjeuner. « Asseyez-vous, Dindonneau, dis-je, et écoutez ce qu'en dit Pincette. Que pensez-vous de cette façon de faire, Pincette ? Ne serais-je pas en droit de licencier Bartleby sur le champ ? Excusez-moi, monsieur, mais c'est à vous d'en décider. » Je trouve sa conduite tout à fait inhabituelle et en vérité injuste envers Dindonneau et moi-même. Mais ce n'est peut-être qu'un caprice passager. « Ah ! M'exclamai-je. Vous avez singulièrement changé d'opinion. Vous lui montrez beaucoup d'indulgence maintenant. »« C'est la bière ! » s'écria Dindonneau. « L'indulgence est l'effet de la bière. Pincette et moi avons déjeuné ensemble aujourd'hui. Voyez comme je suis indulgent, moi. Je vais lui faire un œil au beurre noir. » « Vous voulez parler de Bartleby, je suppose ?»« Non, pas aujourd'hui, Dindonneau, répliquai-je. Desserrez les poings. » Je fermai les portes et Derchef m'avançait vers Bartleby. Je me sentais poussé à tenter encore une fois le sort. Je brûlais de voir Bartleby se rebeller contre moi. Je me souvins alors qu'il ne quittait jamais le bureau. « Bartleby, dis-je, gingembre est sorti. Voulez-vous faire un saut jusqu'à la poste ?» C'était à 3 minutes de marche. « Et voir s'il n'y a rien pour moi ?»« J'aimerais mieux pas. »«
Vous ne voulez pas ?»«
J'aime mieux pas. » Titubant, je regagnais mon bureau et me plongeais dans une profonde méditation. Mon aveugle impulsion me reprit. Comment pouvais-je encore une fois m'attirer les ignominieuses rebuffades de ce misérable air efflanqué ? Mon employé à gages ? Quelle requête parfaitement raisonnable refuserait-il encore de satisfaire ? Bartleby ! Pas de réponse. Bartleby ! Dis-je en élevant le ton. Pas de réponse. Bartleby ! Vociférai-je. Tel un fantôme obéissant aux lois de l'invocation magique, à la troisième sommation, il apparut à l'entrée de son ermitage. Allez dans la pièce voisine et dites à Pincette de venir me trouver. J'aimerais mieux pas, me répondit-il respectueusement, sans se hâter avant de disparaître en douceur. Très bien, Bartleby, dis-je d'une voix contenue sereinement sévère, laissant percer l'irrévocable dessein d'en venir à un terrible et imminent châtiment. Car sur le moment, telle était à demi mon intention. Mais à tout prendre, comme l'heure du déjeuner approchait, je jugeais plus opportun de mettre mon chapeau et de rentrer chez moi, plongé dans la perplexité et le désarroi les plus profonds.
Où est votre famille ? Enfin, vous pouvez avoir confiance. Répondez-moi.
Je préfère ne pas le faire pour le moment, monsieur. Du reste, à partir de maintenant, je préférerais ne plus faire d'écriture.
Comment?
En voilà bien une question. C'est ainsi, Bartleby préférerait ne pas. Ne pas relire, ne pas collationner, ne pas faire une course, ne pas aller dans la pièce voisine, ne pas être un peu raisonnable, ne pas prendre une fonction de commis. Il préférerait se taire. Et plus que tout, il préférerait faire autre chose.
Chers auditeurs, merci. La prochaine émission, du mercredi 12 juin, sera consacrée à l'écrivaine américaine Siri Husved. À très bientôt sur Radio B.